Vous écoutez RMC. RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les immanquables de Charles, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, toujours avec Tristan Bannon, avec Benjamin Hamard et Juliette Briens. Et on commence, Charles, avec l'anniversaire du jour.
C'est l'anniversaire du loto. Le loto fête ses 50 ans. Le premier tirage avait eu lieu le 19 mai 76 à Paris. Le jeu était alors limité uniquement à la région parisienne. Mais aujourd'hui, il y a 16 millions de joueurs en France. En 2025, près de 2 milliards d'euros ont été misés par les Français au loto. Le numéro le plus joué par les Français est le 7. Oui, le 7 porte bonheur aux Français. Oui, 54% des joueurs utilisent systématiquement les mêmes numéros, souvent liés à des dates d'anniversaire, hein, en jouant à l'anniversaire de ses proches. Et l'an dernier, les numéros qui sont le plus sortis au loto en France sont, c'est le moment de noter, le 31, le 6 et le 9.
Le 6, c'est mon truc.
Ah ben voilà, Juliette les connaît.
C'est ma l'adolescence qu'elle faillote.
Ouais, c'est ça. C'est la mienne. Mais moi, je suis née le 6-06, donc c'est quand même la mienne avant tout.
Ouais. Pardon. Bon, ça passe.
Alors, en attendant, il vous reste une chance sur 19 millions quand même de décrocher le jackpot au loto.
Alors, qui joue au loto, Tristan Bannon?
Alors, je joue pas au loto, mais à chaque fois qu'on parle de loto, je pense à un très très bon ami d'une très proche amie qui était au chômage, qui n'avait jamais joué au loto, qui est allé jouer une fois, qui a gagné le jackpot, et qui s'est dit, il faut que je rende à tous ceux qui jouent, eux, régulièrement, il faut que je rende ce que j'ai gagné. Donc, il s'est dit qu'il allait recommencer à jouer dès le lendemain, et il a rejoué le lendemain, et il a regagné.
Mais c'est pas possible.
Mais si.
Mais combien?
Si, je sais pas, mais il est millionnaire aujourd'hui.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà, à chaque fois que j'entends l'auto, je pense à cet homme. Et qui n'est pas nécessairement très, très, très heureux parce que c'était à l'époque où on ne savait pas qu'il ne fallait pas le dire et le comportement des gens autour de lui a énormément changé et ça a été très compliqué pour lui à gérer. Voilà.
Jeu de hasard ou pas, Benjamin Hamard?
Moi, ça m'arrive de jouer.
On fait sa petite grille.
Oui, non, voilà. Je fais très attention parce que le jeu peut être une addiction. Donc, je fais très attention à ça. Mais si, ça peut m'arriver de jouer.
Vous faites des flashs ou des chiffres que vous choisissez vous-même?
Alors non, je choisis mes chiffres. Et bon, ma femme, elle est beaucoup plus joueuse, donc elle m'a engrainé un petit peu là-dedans, mais de manière, j'aime bien le faire, mais comme un plaisir de temps en temps.
Et vous avez déjà gagné?
Des petites sommes.
Ah oui. Mais il se dit, mince, il y a tout le monde qui m'écoute, je vais pas dire que j'ai pris le jackpot.
Non, mais au blackjack, j'ai joué au blackjack et j'ai gagné quelque chose.
Ah, mais à gratter?
Ouais.
Ah ouais, combien?
C'est un vrai dilemme.
J'ai gagné 500 balles.
Ah, quand même!
C'est pas mal, hein.
Mais est-ce qu'on peut rester à la CGT si on gagne le jackpot au loto?
Les CGTistes n'ont pas des vies mornes, tristes, à se morfondre dans leur coin. Oui. Donc effectivement, ils ont des jeux de hasard. Ouais. Attention, par contre, c'est vrai, vous savez.
Une fois qu'ils gagnent le
jackpot, un CGT millionnaire, c'est pas courant quand même.
Ah, écoutez,
il y a peu de gagnants du loto en tête.
Moi,
de
je suis CGTiste.
Si
je
gagne, de grève.
Non, mais si je gagne, je resterai à la CGT. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que les pays.
Ça y est, c'est parti pour le café. Du commerce, mais de l'autre côté de la table.
Mais quand vous partez dans des pays où il y a beaucoup de pauvreté, par contre, vous voyez fleurir les casinos, etc. Par contre, et moi j'ai une anecdote aussi, c'est le fameux gangster Meyer Lansky qui vivait dans son enfance dans la misère. Un jour, il va, sa famille l'envoie acheter du pain avec une piécette et il la joue au craps et il perd et il n'ose pas rentrer chez lui. Il a passé la nuit dehors et il dit qu'à ce moment-là, il a compris qu'il y a quelqu'un qui gagne à chaque fois au jeu de hasard, c'est celui qui l'organise.
Oui.
Et ensuite, lui-même, il aura des tas de casinos, etc.
Juliette Briens?
Pratiquement jamais. Je gratte une ou deux fois par an des jackpots en terrasse, que je trouve ça fun. Et quand il y a vraiment une giga cagnotte complètement indécente, je la joue.
Bah oui.
Mais je connais quelqu'un qui a perdu un jackpot à plusieurs millions à un chiffre près.
Ah oui.
Et je trouve que c'est d'une cruauté absolue.
C'est d'une cruauté.
Il l'a pas perdu. Il a juste gagné. Il a juste gagné. Vous avez compris.
J'ai failli gagner. Moi aussi.
Un chiffre près. Non, mais là, c'était à 1. Tout était dans l'or.
Oui. Oh, il a pris que 75
millions. Oui. C'est dur quand même. C'était plusieurs millions d'euros.
Bah oui, oui. Mais voilà.
Alors que t'étais pas à ça. C'est ça qui est drôle.
Il a pas gagné une somme à 5 chiffres.
100% des gagnants ont tenté leur chance. Un des meilleurs slogans qui existe.
Exactement. Voilà. C'est le slogan du loto. Donc c'est l'anniversaire. Aujourd'hui, on va passer au classement du jour.
c'est celui des expressions les plus agaçantes en entreprise. Sondage Preply auprès de 1500 salariés français. Alors attention, je vous donne le classement, vous choisirez vos préférés. Celles qui agacent le plus les Français sont dans l'ordre. On revient vers toi.
Ah oui.
C'est ok, c'est dans le pipe.
Mais qui dit ça?
Bah je sais pas, mais
si, j'ai déjà entendu.
C'est dans le pipe.
Mais oui. Sortir de sa zone de confort.
Ah oui.
Brainstormer.
Oui.
Prendre le lead. Je te mets dans la boucle. ASAP, pitcher. Le mot bienveillant, ça énerve beaucoup aussi. Ça fait sens. Force de proposition. Et enfin, être assertif ou disruptif. Voilà des termes.
J'ai jamais entendu. Assertif, jamais entendu.
Quand j'étais.
Disruptif, c'est horrible.
Dans une grande entreprise comme ça, où ça parlait beaucoup comme ça, j'avais créé un dossier Excel partagé commun avec tout l'open space que j'avais appelé Combat français. Combat francophone. Combat francophone. Je l'avais appelé Combat francophone et j'avais recensé les centaines de mots utilisés au quotidien et j'avais mis leur traduction française à côté. Et c'était horrible. Mais ça. Il y a aussi, déceptif, confusant aussi. Mon boss disait tout le temps confusant.
Oui, c'est dans l'ADN de l'entreprise.
Enfin, que des trucs horribles, des phrases creuses, etc.
C'est dégueulasse. Ouais.
Franchement, au quotidien, c'est un enfer. Ouais.
16% des sondés dans ce sondage pensent que les anglicismes en entreprise sont particulièrement agaçants. Mm.
En salle des profs, on a des petites expressions comme ça, Benjamin.
Parmi celles qui sont citées. J'en ai pas entendu.
Personne ne prend le lead en conseil
le
de
lead,
classe.
Le lead, non, clairement pas.
Je te mets dans la boucle.
Non, pas je te mets dans la boucle. Il y en a un qui m'a.
Force de proposition.
Ça fait sens.
Bienveillance. Bienveillance. Ce qui est bien gonflant. Mais non, les profs sont.
Plus tu l'entends, moins l'environnement l'est.
Ouais. C'est ça en général. Ouais. Et moins t'as envie de l'être, surtout. Ouais. Faut traiter les élèves avec bienveillance.
Oui, voilà. Alors ouais. On l'entend beaucoup. C'est très gonflant. Par contre, non, les profs sont plutôt préservés de ce genre d'expression managériale ou d'entreprise.
Tristan Bannon, vous employez tous ces termes ou pas du tout?
Cela me disent rien, mais il y en a un qui vraiment m'énerve, c'est sortir de sa zone de confort. Ah on nous resserre à toutes les sauces. Et puis, en plus, la plupart du temps, je ne vois pas l'intérêt. Parce que dans de nombreux cas où on s'en sert, on a envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi s'infliger ça, en fait? T'es très bien dans ta zone de confort. Pourquoi tu vas t'infliger d'en sortir, de casser les pieds de tout le monde, d'être mauvais, et en plus de te faire du mal? Enfin, moi, ce plaisir à se faire du mal, je comprends pas. Ouais, se challenger, voilà, c'est ça. C'est
bien agaçant.
Mais ça vient souvent après zone de confort, justement.
Bah oui, c'est challenger pour sortir de sa zone de confort.
Bon discours là.
Exactement. Nous allons passer au vote du jour.
Un Français sur six a demandé conseil à l'intelligence artificielle avant de voter lors des dernières municipales. Études publiées par le think tank Terra Nova. 7% des Français ont été confortés dans leur choix par l'IA. 5% ont changé d'avis sous l'influence de l'IA. Et 4% se sont servis pour se décider alors qu'ils n'avaient aucune idée de pour qui voter. Les hommes ont deux fois plus recours à l'IA que les femmes pour décider de leur vote. Évidemment, les plus jeunes, ils sont plus sensibles. L'usage est également plus urbain. Mais je vous rassure, l'IA arrive loin derrière d'autres sources d'informations pour voter, hein, derrière les tracts, les professions de foi ou les discussions avec ses proches.
Après, si on demande à l'IA, quels sont les cinq points principaux d'un programme pour les candidats, je vois pas où est le problème. Vous avez l'air désespéré, Tristan.
Ah, moi, je trouve ça désespérant. Moi, je pense qu'on... On apprend à l'école à se faire des avis éclairés soi-même et que quand vous alors vous me dites où est le problème? Eh ben il est le problème que c'est l'IA qui va décider quels sont les cinq points importants du programme.
Bah oui.
C'est alors que vous peut-être que si vous aviez lu le programme c'est pas cela que vous auriez retenu.
Bah oui.
Et je trouve que cette façon de déléguer sa réflexion et son jugement à une machine, quelle que soit la machine et quelle que soit par ailleurs sa capacité de d'agréger des connaissances, c'est la mort de la réflexion. Et on pourrait ouvrir le débat sur la création, c'est un vrai problème aussi.
Mais après, si ça peut pousser les jeunes à aller voter, justement, Juliette Vrignon.
Non, mais parce qu'en fait, on parlait il y a deux minutes du langage managérial, il y a le langage politique aussi. Il veut tout autant rien dire et il noie tout autant l'auditeur dans une boue informatrice qui est tout dans la nuance, mais jamais dans le concret. Donc, si le but de l'IA, c'est... Explique-moi concrètement ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment mettre en place? Parce que franchement, parfois, moi, je lis des professions de foi, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce ramassis de blabla, quoi? On ne comprend rien à ce qu'il veut vraiment dire. Donc, si c'est une aide... C'est une aide comme... En fait, c'est un outil. Donc, l'outil, il n'est pas mauvais en soi. Il faut savoir comment... Si c'est... Bon, dis-moi honnêtement pour qui je vote. Oui, là, c'est complètement bête de faire ça. Si c'est un outil pour s'aider à comprendre, je ne vois pas le problème.
Benjamin Marre.
Le truc, c'est qu'on est tous d'accord qu'il faut savoir décrypter et analyser un programme. Sauf que si on confie à l'intelligence artificielle, il y a un gros souci. Donc, je suis désolé, on a tous la capacité de raisonner, de lire des tracts, de comparer et de faire ce décortiquage nous-mêmes. Le confier à l'IA, ça va nous préparer des générations de débiles. Hein. On doit réfléchir. On confie à l'IA la mission de réfléchir, de rédiger. Dans 25 ans, on repasse, on sera l'humanité, la génération d'humains la plus stupide et la plus abrutie depuis l'histoire de l'humanité. Donc non, on continue à réfléchir par nous-mêmes, au moins sur ces sujets centraux.
Très bien.